Graffiti. 19-20h.
Tu vas au boulot, tu marches seul.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur Graffiti, votre radio locale, votre radio vendéenne, votre radio alternative. Elle est aussi solidaire, elle est culturelle, elle est plurielle et elle est nous. Notre émission Histoire de femmes que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sur Instagram et la page Facebook Histoire de, le chiffre de femmes au pluriel. Ce soir, une émission un peu différente. Nous n'avons pas d'invité, contrairement à tous les mois habituellement. Je vous rappelle, le premier mercredi de chaque mois. Ce soir, nous n'avons pas d'invité et d'invité et puisque je vous le rappelle, j'en profite que nous pouvons aussi accueillir des hommes avec plaisir pourvu qu'ils viennent parler de femmes. Dans le studio avec moi, Alex, salut.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui, tu nous as préparé une super playlist.
Oui.
Oui. J'ai pas l'air sûr de
si,
toi.
Si, bah super, je sais pas, mais une playlist, oui, c'est sûr.
T'en fais toujours des super.
Merci.
Annie, bonsoir.
Bonsoir, ouais. Salut Alex.
Salut.
Tu vas bien toi aussi?
Ça va.
Toujours
ça
le
va,
moral à zéro à cause des chroniques.
C'est un peu, ouais, c'est un peu le cas, ouais.
C'est un peu ça. Donc nous retrouverons bien la playlist d'Alex à tout moment. Et puis bien sûr, enfin à tout moment, je dis régulièrement au cours de l'émission. Et les chroniques d'Annie, la première à 19h30 et la deuxième à 20h. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre. Et à la fin de ce mois, le 25 novembre, il y a la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas d'invité ce mois-ci. Nous allons faire une émission un peu différente et on vous parlera des violences faites aux femmes. On vous parlera, enfin évidemment, on vous donnera quelques chiffres. On vous parlera bien sûr d'actualité et puis on vous parlera de ce qui va se passer à la fin du mois dans notre ville, à La Roche. Et ça nous sera présenté par Marion du collectif Nous Toutes qui nous rejoindra tout à l'heure. Donc, pour commencer, alors là, ce chiffre que l'on annonce à chaque fois, mais pas dès le début de l'émission. Là, je vais le dire dès le début de l'émission, puisqu'on est en plein dans le sujet. Au 26 octobre de cette année, nous étions à 135 féminicides. La différence, il y a une différence entre ce chiffre qui est celui qui est donné par des associations et le chiffre du gouvernement. Le chiffre du gouvernement, sauf erreur, annonce 107 pour la fin du mois d'octobre. Alors la différence, elle est simple, c'est que au niveau le chiffre officiel prend en compte les affaires une fois que c'est avéré, que le féminicide est avéré, même si l'affaire est encore en cours d'instruction, c'est déjà passé par la police, a été avéré, alors que au niveau de Nous Toutes et de l'IOF, eh bien, ça passe aussi par les médias, les informations qui sont dans les médias. Donc, s'il y a une femme, si les médias annoncent qu'une femme a été assassinée par son mari la veille, c'est pris en compte dans le comptage que nous, on annonce, donc dans les 135 au 26 octobre. Donc, à un moment dans l'année, ça finit par se rejoindre, normalement, si tout va bien. Je voulais quand même rebondir sur le chiffre du gouvernement, donc qui est de 107 à l'heure actuelle. Le gouvernement nous dit que c'est 11% de plus que l'année dernière. Voilà. 11%, c'est énorme. Précise aussi toujours les chiffres officiels que dans les féminicides, il y a 90% qui ont lieu au domicile conjugal. 90% des féminicides. Et que dans 9% des cas de féminicides, les enfants sont des témoins directs. Voilà, donc, violence faite aux femmes, aux filles et aux enfants, qu'ils soient filles, garçons ou non-genrés. Voilà. Alors bon, je vais passer un petit peu du coq à l'âne. Avant de vous redonner d'autres chiffres concernant les violences, je voulais quand même... à chaque fois qu'on annonce des chiffres de violence, là je ne l'ai pas encore fait, il y a un pourcentage d'hommes dans les responsables, les bourreaux, les assassins, les violeurs, les agresseurs de façon générale, qui évidemment est énorme, voire qui frôle les 100%. Et à chaque fois, on nous rétorque le « not all men ». Le hashtag « not all men », qui veut dire « pas tous les hommes », qui nous est servi régulièrement à toutes sortes de sauces. Et j'ai lu quelques petites choses sur le sujet, bon c'est pas nouveau, mais récemment, et je voulais souligner les mots qui reviennent dans la bouche de celles, mais aussi ceux qui n'en peuvent plus d'entendre ce « not all men ». Alors bon, c'est un argument qui finalement, c'est du mansplaining, parce que ça correspond à une inversion en fait des culpabilités, les hommes ne sont absolument pas les victimes dans les affaires de violence contre les femmes. Ils ne sont pas les victimes, ils sont les agresseurs. Et en nous sortant le « not all men », on nous manipule, on nous confisque la parole parce que vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que ça n'est pas tous les hommes. Donc, silence, terminé. Et puis aussi, c'est plus les femmes les victimes, c'est nous, les pauvres hommes, les ouin-ouin, on y revient. Et ça, je voulais le souligner ce soir. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'évidemment, ce not all men, c'est l'arme du patriarcat. Hein. Enfin, c'est l'une des nombreuses armes du patriarcat. Et puis, ça les fait aussi, paraît-il, peut-être parfois culpabiliser un peu. Parce qu'il y a ceux qui sont des agresseurs. Et puis, il y a ceux qui ne le sont pas et qui nous clament le not all men, mais qui en fait ne font rien pour lutter contre les agressions. Mais histoire qu'on ne parle pas de ça, qu'on ne leur dise pas « et toi tu fais quoi ?» machin, c'est pas nous tous, c'est pas tous les hommes. Donc voilà, c'est un moyen d'échapper aussi à l'échange et à l'éventuel retour de bâton en termes de responsabilité de leur part, parce que font-ils quoi
Échapper à la remise en question.
Et c'est ça, c'est terrible. Parce que des associations d'hommes qui luttent pour l'égalité... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une quand même dont je vous parlerai tout à l'heure. Quelques chiffres, un chiffre sur les viols. Alors les viols, je croyais que c'était toutes les 3 minutes en France. C'est toutes les 2 minutes 30 qu'il y a un viol ou une tentative de viol. Le pourcentage de condamnation... Lorsqu'il y a plainte, 0,6%. 80% des femmes handicapées ont été victimes de violences sexuelles ou sexistes. Elles sont 4 fois plus susceptibles que les femmes valides d'être victimes de VSS. J'ai été assez scotchée.
80%
c'est énorme. J'ai relu pour être sûre que j'avais bien compris. Alors j'en profite pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs que tous les chiffres que j'annonce ce soir sont sourcés. Et je vais vous citer les sources que j'ai utilisées. Alors il y a statista.com, il y a le site de Nous Toutes, un sondage Le Figaro et France Info de 2017, le Haut Conseil à l'égalité, le Public Sénat, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, Eurostat, l'Institut européen pour l'égalité des hommes et des femmes, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le ministère chargé de l'égalité. Je ne voudrais pas qu'on pense que j'ai inventé les chiffres, sous réserve d'erreur de ma part, bien entendu. Hein, voilà, ce sont des chiffres que personne ne peut remettre en cause. Voilà, c'est pas, ça ne sort pas de mon chapeau. Et donc j'ai pas mal de chiffres de ce genre à énumérer. Je vais peut-être pas tout dire d'un coup parce que ça va plomber l'ambiance. Hein.
Ouais, comme le nombre d'orphelins depuis le début de l'année 2025.
Ouais.
54.
Ouais. Voilà. Eh bien, tu as achevé de plomber l'ambiance.
Oui,
Est-ce que Alors, au milieu de tout ça, la question qui se pose forcément, et vous allez comprendre, et Alex aussi, c'est que fait la justice ? Et on va écouter Suzanne.
Suzanne, je t'accuse.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Et puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. T'es où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Faire nous-mêmes, car je t'accuse de fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocente, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume, et j'assume. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. Pour celles qui prennent la plus lourde des peines, pour les victimes de ton système, je t'accuse et j'assume.
Un morceau très fort que tout le monde connaît désormais, je pense. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais on l'entend partout. Et ben, je t'accuse, le T, c'est la justice. Et donc, moi, je voulais un petit peu de couleur. Vous ne me voyez pas, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'ai un gros ruban violet accroché sur ma robe. Et donc, il n'est pas violet par hasard. Je pourrais le porter toute l'année, mais le mois de novembre et bien sûr le 25 novembre en particulier, c'est très important. Alors, je voudrais vous dire, je voudrais qu'on parle de d'où vient cette couleur. Le violet, c'est donc la couleur du féminisme. Ça vient, en fait, j'ai vérifié l'histoire, le 25 novembre 1960, en République dominicaine, il y a quatre sœurs, la famille Mirabal, qui ont été victimes de violences. Elles ont été violées, elles ont été frappées sur l'ordre du dictateur de l'époque. Et elles sont devenues des martyrs, en fait. Et c'est là qu'on a commencé à voir du violet. Plus tard, bien plus tard, 1999, l'ONU décide d'adopter cette couleur. Décrète cette couleur. Non, pardon, je dis des bêtises, c'est pas la couleur. L'ONU, j'ai dit n'importe quoi là, hein. Ça va pas
parce
du tout moi.
Les sœurs Mirabal, je crois que c'est pour la journée du 25, oui voilà, c'est pas le violet.
Écoutez, je suis fatiguée, je sais, et elle est pas finie. Bon, alors je dis des bêtises, je recommence. La journée internationale des droits des femmes, l'ONU l'a décrétée le 25 novembre de chaque année en 1999. Et l'origine, c'est bien sûr, comme vient de le dire Annie, vous aurez rectifié ce qui s'est passé en République dominicaine le 25 novembre 1960. J'en viens maintenant à la couleur. Je ne vais pas tout mélanger. Alors, le violet, dès la fin du 19e siècle, on a les couleurs de la... Le violet est considéré, fin du 19e, souvent, selon les cultures, comme un symbole de dignité. Les suffragettes aux États-Unis adoptent le violet. Les mouvements pour le vote des femmes aux États-Unis, j'ai dit suffragettes aux États-Unis, c'est bien sûr au Royaume-Uni. Décidément, c'est pas ma soirée. Et donc, aux USA aussi. Et entre les deux guerres, on retrouve tous ces mouvements et on retrouve la couleur, le violet, qui s'affirme de plus en plus. En France, c'est dans les années, fin des années 60, 70, mai 68, le début du féminisme, enfin le début du féminisme, il y en a eu avant, le début des grands mouvements féministes, le MLF, le mouvement de libération de la femme, et là le violet est bien ancré dans la société et dans le monde, comme la couleur du féminisme. C'est vraiment une couleur qui est commune, c'est la couleur internationale du féminisme, il n'y a pas de différence d'un pays à l'autre. Pour autant, ça n'est pas la seule couleur qui est associée à la Journée internationale de droits des femmes. À La Roche, je ne sais pas encore pour cette année, mais régulièrement, les années précédentes, le 25 novembre, la ville, en tout cas du côté du théâtre, se pare d'orange. La première fois que j'ai vu ça, je n'ai pas compris. Et le maire nous a dit que c'était que le orange était la couleur qui avait été choisie par l'ONU. Et il a raison. En 2008, l'ONU décrète que la couleur du 25 novembre, journée donc de lutte pour les droits des femmes, serait le orange. C'est une couleur pétillante. Je ne peux pas m'empêcher de me dire... Enfin, 2008, c'est relativement récent, je veux dire, dans l'histoire. Comment se fait-il ? Enfin, je veux dire, tout le monde utilisait le violet, la couleur de féminisme, et à un moment, l'ONU dit « Ah ben non, ce sera orange ce jour-là ». Si ça, c'est pas pour voir un petit peu moins de marée violette dans les rues, je voudrais pas avoir l'air complotiste, mais quand même, ça interroge un petit peu. Donc, 2008, l'ONU dit que c'est l'orange. Mais, et on le verra à la fin du mois, quand on va regarder les images des manifestations partout en France et partout dans le monde, on va essentiellement voir, peut-être même uniquement voir, sauf peut-être à La Roche-sur-Yon, du violet. Du violet, voilà. Et il y a autre chose. Si vous regardez bien mon ruban violet, à côté, j'ai un petit ruban blanc. Parce qu'on associe aussi le ruban blanc aux violences faites aux femmes. Alors ça, ça vient de 1900, ça date de 1991. Il y a eu un massacre au Canada. Un grand malade, non pas malade d'ailleurs, un meurtrier du nom de Marc Lépine, qui a tué des femmes dans un établissement scolaire, universitaire, je crois. Bon, j'ai un doute. En tout cas, il a dit « Je hais le féminisme, je veux tuer des féministes ». C'était son mobile. Il a tué 14 femmes, je crois. Il y a aussi quelques hommes qui ont été victimes, mais il est vraiment venu pour tuer des femmes. Et suite à ce massacre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, donc qui a eu lieu au Canada, un mouvement pour dénoncer les violences masculines a vu le jour. Ce mouvement s'appelle le White Ribbon Campaign, c'est-à-dire la campagne du ruban blanc. Et figurez-vous que ça a été créé par des hommes. Je rebondis avec ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des hommes qui ont comme objectif d'apaiser les tensions, et ça, c'est très bien, en dénonçant la prévalence de la violence masculine. Et ça, voilà, je voulais quand même le dire, ça existe, d'où le ruban blanc.
Donc, au Canada, quoi.
Bah, le ruban blanc, oui, alors ça, le mouvement, c'est au Canada. Ça vient du Canada. Ah oui, tout à fait. Alors après, en France, Mais c'est peut-être un message qu'on pourrait lancer, ça. Est-ce que, chers auditeurs et chères auditrices, vous connaissez, en France ou même ailleurs, mis à part le mouvement dont je viens de parler, des mouvements, des associations masculines, en fait, les associations, ou masculins, les mouvements, créés par des hommes ou menés par des hommes ou dans lesquels il y a beaucoup d'hommes. Enfin, voilà, ça serait intéressant. Ça serait intéressant à découvrir. Et puis, ça serait intéressant aussi de pouvoir discuter avec ces gens-là. Enfin, moi, j'en connais pas, en fait. Donc, je ne sais
plus,
pas.
Non.
Voilà, mais il y en a peut-être. Et s'il n'y en a pas, messieurs, si vous nous écoutez, rejoignez-nous ou créez une association qui va se battre à nos côtés comme vous le souhaitez. Ça, c'était pour les couleurs. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas... Non, pas du tout. Je suis en avance. Ce n'est pas l'heure de la chronique d'Annie. On dirait que je ne veux pas continuer à parler. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Quelques chiffres encore. Alors, donc, je vous ai dit les tentatives de viol. Alors, une femme sur six... Écoutez bien, une femme sur six a eu son premier rapport pour 36% d'entre elles avant 15 ans, non consenti. Autrement dit, un viol, hein, je veux dire. Voilà, le terme était non consenti dans l'enquête, dans les chiffres, donc je l'ai repris, mais ça veut dire viol. Hein. Donc, une femme sur six, premier rapport non consenti, et parmi ces femmes, 36%, c'est avant l'âge de 15 ans. Je le répète deux fois, je suis désolée, hein, mais voilà. Une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. Dans les établissements scolaires, près de 40% des femmes ont vécu des violences sexuelles ou sexistes. Et sexistes. 26% ont connu un viol, enfin, ont été violés pendant leur scolarité, ce qui peut aller jusqu'à évidemment la fin des études universitaires, l'enseignement supérieur. Ce sont des chiffres qui datent de 2024. Et bien sûr, je parle de la France. Hein. Okay. Je parle de la France. Et ce sont des chiffres donc de 2024, comme je le disais. 79% toujours en 2024 des femmes ont déjà eu peur de rentrer seules le soir. 58% ont déjà renoncé à sortir seule, par exemple pour voyager ou aller au cinéma toute seule un soir. 54% des femmes ont déjà renoncé à s'habiller comme elles le souhaitent avant de sortir. Je veux dire, c'est plus d'une femme sur deux quand on entend encore aujourd'hui des hommes et parfois des femmes... parfois des femmes nous dire bah, c'est bon, moi je comprends pas les violences, non il y en a pas, on est égal aux hommes ici et donc tout va bien et moi je n'ai jamais rien connu. Et ben elles ont beaucoup de chance. Elles ont beaucoup de chance. Hein, c'est... Et là, je vous parle même pas des chiffres sur le harcèlement de rue. Enfin bon, je vais pas tout énumérer non plus parce que je pourrais, enfin on pourrait y passer trois heures hein, si on voulait vraiment tout dire. Et puis, qu'est-ce que je vais dire pour plomber un petit peu plus l'ambiance là tout de suite?
Attends, parce qu'après il y a la chronique.
Ah ben oui, c'est vrai, faudrait pas que je dise ce que tu vas dire.
Non,
hein.
Non. Plombe pas trop.
Non, je plombe. Ouais, parce que sinon ça va être dur. Après, vous allez vous écrouler quand vous allez entendre Annie. Bon, ben en même temps, on est au mois de novembre, hein, donc est-ce que je peux dire quelque chose de positif? Pas du tout. Moi, je n'ai absolument rien à dire de positif. Ah, peut-être une initiative. Je ne sais pas si elle est triste ou si elle est positive ou négative. Enfin, au Royaume-Uni, tout près de Dallas, en 2022, il y a un village qui s'est créé où il y a actuellement une dizaine de femmes qui vivent, une liste d'attente de 500. Elles vivent dans des tiny houses, vous savez, ces mini-maisons là. Et elles ont créé un village qui est interdit aux hommes. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou pas, mais elles l'ont fait pour se sentir en sécurité parce qu'elles en avaient marre en fait. Pour enfin vivre tranquillement, ne pas avoir besoin d'être sur leur garde en permanence. Alors c'est horrible, c'est extrêmement triste. Et puis on pourrait débattre sur le sujet, et j'y reviendrai tout à l'heure, on parlera des transports, mais voilà. En tout cas, elles sont enthousiastes, heureuses, nous disent-elles, d'être là-bas. Il y a une joie de vivre qui règne dans ce village. Et je me disais que ça allait peut-être être la note positive, tout en n'étant pas forcément complètement positive de la soirée. Je voulais vous dire aussi, je veux vous dire beaucoup de choses en fait, dans les transports, allez, je vais en parler tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu passer, depuis quelques jours, il y a une pétition qui circule sur change.org qui réclame, dans cette pétition, il est demandé que dans les transports franciliens, donc en Île-de-France, il y ait des rames, donc dans les transports à Paris, des rames qui soient réservées aux femmes et aux enfants. C'est demandé suite à, tout le monde en a entendu parler, je crois pas que tu nous en parles tout à l'heure, de l'agression qui a eu lieu dans le RERC. Donc c'était le 24 octobre. Il y a une jeune femme qui a été agressée par un homme qui a tenté de la violer. Et si elle a réussi, enfin, si finalement elle a échappé au viol, bon, elle a quand même pris des coups, hein, mais bon, c'est qu'une autre femme est intervenue. C'était en journée. Sur la ligne de RER, c'est le 24 octobre. Je rappelle que 80% des femmes à Paris sont en alerte dans les transports en commun, que 56% des femmes s'y sentent en insécurité. Et ces chiffres viennent de la mission ministérielle pour la protection des femmes. Ce n'est pas un sondage dans la rue en sortant du métro. Ce que je vous dis là sur les transports, cette pétition, ça fait penser évidemment au village dont je viens de parler, hein, des endroits qui seraient réservés aux femmes. Au passage, ça existe déjà au Japon, ça existe en Inde, et dans les deux cas, c'est fait pour protéger les femmes. Il y a eu des tentatives dans d'autres pays, notamment en Allemagne par exemple, et puis ça a été abandonné. Il semblerait, j'ai pas trouvé de source fiable vraiment, que ça n'ait pas porté ses fruits.
Donc ça résout pas le problème finalement.
Alors ceux qui sont contre, effectivement, disent que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est éduquer les garçons, éduquer les hommes. Et en même temps, dans ceux qui sont pour, il y en a qui disent que l'un n'empêche pas l'autre, que dans l'urgence. Oui. Parce que le temps qu'on les éduque, en attendant, on se fait agresser. Que donc, dans l'urgence, il faudrait peut-être mettre ça. Et en même temps, éduquer. Mettre des peines qui sont à la hauteur des crimes commis. Hein, tout à l'heure, 0,6% de condamnation par rapport aux plaintes pour viol. Donc tout ce qu'il y a à faire par ailleurs, et il y en a qui disent qu'effectivement, en attendant, ça rassurerait les femmes. Je sais pas, vous en pensez quoi ? Moi, je sais pas quoi penser. Hein,
Ça ne résoudra pas le problème, mais oui, en attendant, ça peut permettre aussi, surtout sur des, par exemple, le métro quand il est vraiment bondé. Ouais. Là, ça peut être pas mal.
Ouais, de trouver un espace sûr. À peu près safe. Ouais.
Mais parce qu'après, s'il faut compter sur la bonne volonté des usagers pour être défendu,
faut pas rêver. Hein.
C'est plutôt risqué. Hein.
Oui. C'est plutôt risqué. Et 50% des femmes, 50% des femmes qui ont été, non pardon, par rapport entre 2004 et 2023, il y a eu une augmentation de 6% au niveau des agressions dans les transports en Île-de-France. Agressions de femmes. Et plus 9% par rapport à 2022. Donc, effectivement, moi, cette histoire de rame, j'ai du mal à... J'étais à Paris, par exemple, cet été, là, au mois d'août. J'ai beaucoup pris le métro. Et quand j'ai entendu parler de cette pétition, j'ai essayé de me dire, bon, voilà, si j'avais été... Si ça avait existé, là, au mois d'août, quand j'étais à Paris pour la dernière fois, est-ce que j'aurais pris les rames pour femmes ? Bon, la réponse, c'est clair. Je serais montée dans les rames réservées aux femmes au moment aux heures de pointe. Comme tu le disais, là, Alex, c'est très clair. Hein, quand on est collés les uns contre les autres aux heures de pointe dans les rames de métro, c'est juste pas possible. Est-ce que j'aurais aimé que ça existe ? En fait, je sais pas. J'y suis allée au mois d'août. J'étais en vacances. J'étais pas forcément beaucoup dans les heures de pointe. J'étais pas vraiment dans le contexte.
Donc, celles qui sont obligées de le prendre pour aller travailler, qui n'ont pas le choix.
Alors après, moi, je suis parisienne, j'ai le RERC, là, dont on parlait, c'est le RERC, je l'ai pris pendant des années, tous les jours, pour en tant qu'étudiante, dans le métro, j'ai tout vu, j'ai tout senti, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est presque une fatalité, parce que comme je suis parisienne, finalement, c'est presque normal, en fait.
Ouais, on s'habitue.
On s'habitue, c'est terrible. Hein. Donc moi, ça ne me stresse pas. Quand je vais à Paris, je ne me dis pas, ah là là, je vais tomber sur un exhibitionniste. Ah là là, je vais tomber sur un frotteur. Ah là là, je vais me faire arracher mon sac aussi, ça n'a rien à voir. Mais bon, en termes d'insécurité, parce que je me dis, oui, alors il faut que je fasse attention à mon sac. Il faut que je mette mes fesses contre la porte, parce que comme ça, il n'y a personne qui peut se mettre derrière moi. Enfin, c'est l'espèce de réflexe acquis, en fait.
La charge mentale que tu t'es imposée, malgré toi.
Complètement. Que des situations d'évitement.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, quand on est habitué, on... c'est ça, c'est une charge mentale, c'est devenu instinctif, en fait. Et... Bien, mais je crois qu'il est l'heure de ta chronique. Peut-être que Alex veut nous mettre un petit truc musical avant,
oui.
Après.
Alors, Ruelle sombre.
Oui, okay. Morceau de Lisa Pariente ou Pariente.
Non, maman, c'était pas tard le soir dans une ruelle sombre. Non, maman, c'était pas dans ce bar où les lumières grondent. C'était pas dans un bois contre un arbre par un étranger. C'était pas dans les bras d'un lascar qui m'a kidnappé. Je connaissais ses yeux, je connaissais ses mains, je connaissais le poids de son corps sur le mien. Mais il a été tendre, je crois, j'ai oublié, appris ce qu'il voulait prendre, mais sans me réveiller. Pourtant, je suis pas innocente, dira-t-on de moi. Et promis, je n'en parlerai pas, puis qui me croira. Ironie, car au fond, même toi, tu ne le sais pas. Tu connaissais mon cœur, tu connaissais mon rire. Tu déchires ma pudeur en me laissant dormir. Au moins je peux pas me défendre, non, je peux pas crier. Faudrait pas se faire prendre ni me réveiller. Pas de rêve cette nuit.
C'était mon grand frère.
Et c'était mon entraîneur de sport.
C'était mon ami.
C'était un ami.
T'étais capable du mieux, t'as préféré le pire. Je te fais mes adieux et je garde en souvenir. Non, ne t'en fais pas, j'avance vers mon bonheur. Et toi, ça te fait quoi d'être un violeur?
Voilà, cette chanson, si vous ne l'aviez pas encore entendue, donc je le rappelle, la chanteuse et autrice qui dit avoir été victime de violence, hein, et elle l'a annoncé à sa famille juste avant que la chanson ne sorte, je crois. Donc je ne sais pas quel lien de parenté, mais c'est clairement un inceste. Hein. Et ben, donc un enfant sur trois en France, non pardon, un enfant en France, toutes les trois minutes, est victime de viol ou d'une tentative de viol, qui dans la plupart des cas est un inceste. Donc je rappelle, l'inceste, c'est quand l'agresseur a un lien de parenté avec la victime, est un, donc que ce soit un frère, un cousin, un oncle, un père, un beau-père aussi, un grand-père, et évidemment, je ne peux pas énumérer tous les liens de parenté qu'on peut avoir dans une famille avec des hommes. Et ça, et d'ailleurs, les études nous disent que dans les cas d'inceste, il y a très peu de plaintes. Parce qu'effectivement, bah, l'inceste, ce sont des viols, des agressions sexuelles au sein de la cellule familiale. Voilà. Et bien sûr, ces bonnes paroles. Annie, je te laisse la parole pour ta première chronique.
Allez, c'est parti. En parallèle de la valse des gouvernements, ou plutôt de ce qui pourrait s'apparenter au célèbre refrain du prédateur sexuel électrisé « ça s'en va et ça revient », une avancée majeure s'est produite dans la législation française. En effet, ça y est, le non-consentement entre dans la définition pénale du viol. Suite au vote de l'Assemblée nationale le 23 octobre dernier et celui du Sénat le 29 octobre, la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a été définitivement validée. La notion de non-consentement de la victime y est explicitement inscrite. Il y est également rappelé que le consentement doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Une avancée majeure donc, puisque cela implique que l'on doit s'assurer du consentement de sa ou son partenaire avant tout acte sexuel. Normal, me direz-vous. Eh bien, pas pour tout le monde, a priori. Et si la loi progresse, la justice, elle, semble fidèle à son ambivalence. Je place ici un trigger warning, puisqu'il va être question de violence sexuelle. Je ne sais pas si le nom d'Harry Habitan vous dit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous ne perdez rien, oubliez-le tout de suite. Je vous dresse le tableau. C'est un type qui, à 50 ans, a sodomisé une femme de 23 ans, non consentante, qui a porté plainte et dont le stress post-traumatique et les lésions ont été attestés médicalement. Et pourtant, ce type a bénéficié d'un non-lieu. Comme si on avait volontairement laissé s'éteindre le feu des preuves pour que la fumée dissimule le crime et que la société oublie l'agresseur. Je rappelle que la France a été déjà condamnée 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de sa gestion des affaires de violences sexistes et sexuelles. Et ce type, ce pavane maintenant, remonte sur scène, oui parce qu'il est humoriste, revient en pleurnichant sur son expérience et en jouant la victimisation bankable si chère au patriarcat. Pire, il se pose en grand prince face aux féministes qu'il ne combat pas, dit-il, presque en donnant des leçons quant à la libération de la parole des femmes. Pas besoin de spectacle, c'est une blague à lui tout seul en fait. Et en parlant de spectacle, le collectif Nous Toutes se mobilise dans la ville de Lyon pour interdire celui de cet agresseur prévu, attention, vous ne cauchemardez pas, le 25 novembre, bien évidemment. Yeah, génial le calendrier. Espérons que Nous Toutes obtiennent sa déprogrammation. Et si vous cherchez de vrais humoristes, tournez-vous peut-être plutôt vers Florence Mendez, Élodie Arnoux ou Laura Calu, par exemple. Vous serez sûrement moins déçus. C'est quand même fou de se dire que dans un pays qui vient d'inscrire le non-consentement dans la définition pénale du viol, un violeur va pouvoir se produire en spectacle librement. En même temps, c'est également dans ce pays qu'une adolescente de 15 ans a été assassinée par son conjoint à coups de crosse. Et tout ce que trouvent à rabâcher les articles, c'est que Mélina, tuée à l'homme dans la périphérie de Lille, avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance et qu'elle était en fugue. Et alors, je n'arrive pas à déterminer le but de préciser cette information. Mais ce qui m'agace le plus, c'est qu'on évoque juste son assassin en expliquant qu'il s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre. Ils vont quand même pas nous faire le coup de la faute avouée à moitié pardonnée, si ? Mélina a été sauvagement assassinée dans une chambre d'hôtel et personne n'a réagi. Une femme, qui passait la nuit dans un autre hôtel, a témoigné avoir entendu des hurlements. Mais personne n'a réagi. En fait, le monde entier s'équipe d'un casque anti-bruit pour ne surtout pas entendre des femmes périr. Ce monde qui ne semble jamais à court de haine et d'idées diaboliques pour oppresser celles et ceux qui ne correspondent pas aux critères des puissants. Ainsi, aux États-Unis, la Cour suprême examine actuellement une loi de l'État du Colorado qui interdit les thérapies de conversion en vue de déterminer si cette loi ne contrevient pas à la liberté d'expression des professionnels de santé. Non, ce n'est pas une mauvaise blague, mais bien la requête de Kelly Childs, une conseillère psychologique chrétienne évangélique, qui s'appuie sur ses convictions, censée répandre l'amour d'après ce que j'avais naïvement compris, pour demander la réautorisation de la torture à l'encontre des gens qui ne partagent pas son orientation sexuelle. Les thérapies de conversion sont en effet assimilable à de la torture, selon le rapport présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous vous souvenez peut-être du témoignage de Lucie, le mois dernier. J'imagine que le mot « torture » vous paraît approprié. Donc résumons. On inscrit enfin le non-consentement dans la loi, mais on va applaudir un agresseur pendant qu'on laisse mourir une enfant et que les illuminés du Seigneur imaginaire repartent en croisade à coups de torture. Eh bien, pas facile de garder le moral. Mais heureusement, on va se bouger le 29 novembre prochain à La Roche-sur-Yon pour lutter tous ensemble contre la haine et les violences sexistes et sexuelles. N'est-ce pas ? Ce sera déjà ça. Mais comme d'hab, il ne faudra rien lâcher et persévérer.
Merci. Je vois pas ce qu'on peut dire pour rebondir, enfin... Si.
Fuck you.
Vas-y, vas-y. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr.
Look inside, look inside your tiny mind, then look a bit harder, cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
C'est la version censurée, il n'est pas encore 20h. Donc oui, j'espère que vous avez apprécié le petit chien.
Oui, c'est un chien, je sais pas trop, c'est un peu...
Il y a de tout, il y a de tout.
On dirait les jouets pour enfants ou pour les os pour les animaux, pour les chiens, tu sais, quand t'appuies, ça fait pouic pouic. Ça fait un peu ça.
Mais oui, mais il n'est pas encore 20h, donc voilà.
C'est quoi cette histoire de 20h? Donc cette chanson dit « Fuck you, fuck you very, very much ». Non. Et si tu veux, je peux le refaire avec le petit quick quick. Je vais essayer, ça fait le quick quick. Fuck you. C'est ben moi, ça nous aura fait rire. Alors ce gros fuck, il était adressé évidemment à tous les salopards du monde et en particulier ceux dont tu nous as parlé. Et les salopards, mais les salopes aussi, le terme est peut-être pas adapté. C'est pas ce mot-là que j'aurais dû utiliser. Enfin les connasses quoi. La connasse de d'évangéliste, je sais pas quoi, dont tu nous as parlé tout à l'heure.
Je fais tout pour pas qu'il y ait des gros mots à l'antenne. Ouais,
alors moi j'ai décidé que j'allais essayer d'en placer le plus possible là, dans les minutes qui suivent. Donc, fuck you.
Bien.
Alors tout à l'heure je vous ai parlé des agressions dans le cadre de la scolarité. Je vous ai annoncé des chiffres. Alors j'ai quelques exemples parce que j'ai lancé un appel à témoignages ces derniers jours et j'ai recueilli des témoignages. Donc par exemple. Les noms sont tous changés, évidemment. Ça va de soi, dans un souci d'anonymat. Une jeune femme du nom de Leïla, enfin c'est pas son nom, donc comme je viens de le dire, à l'âge de 20 ans, à l'université, en cours, en Vendée, a eu un prof, lui a caressé la cuisse. Elle avait un jean avec un jean troué à la cuisse. Et ça il n'a pas pu résister, n'est-ce pas? En plein cours, devant d'autres étudiants qui ont vu les choses se passer. Et bien entendu, il n'y a pas eu de suite. Voilà.
Tu es en train de dire que l'éducation nationale ne suit pas? Ou il n'y a pas eu de suite de la part des parents d'élèves ou...
Alors, en l'occurrence, donc une jeune femme de 20 ans et donc majeure qui a fait un signalement à l'université, mais qui n'a pas souhaité porter plainte parce qu'elle avait peur. Il connaît mon adresse, il sait où j'habite. Voilà. Donc voilà ce que cette ex-étudiante Leïla, qui n'est plus étudiante aujourd'hui, c'était il y a quelques années, m'a rapporté. Voilà. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, si jamais il s'est passé quelque chose au sein de l'établissement. Je vais vous parler aussi d'Esther. Donc encore une fois, ça n'est pas vraiment son prénom, qui a pendant plusieurs années a supporté, en serrant les dents, des attouchements réguliers dans les escaliers bondés pour faire la queue, pour aller aux rues. C'était à Nantes. Et puis, alors je suppose que ça rentre aussi dans les statistiques quand on parle de violences de VSS subies dans le cadre de la scolarité. Priska, 11 ans, avait 11 ans quand elle est rentrée du collège un jour, donc en plein jour, où elle a été harcelée par un homme d'une quarantaine d'années qui n'arrêtait pas d'insister, qui la suivait, qui voulait absolument la raccompagner, qui lui a tenu des propos salaces. 11 ans, elle comprenait même pas tout. Elle a compris instinctivement qu'il y avait un danger. Et puis, bien sûr, nous, les femmes, on est éduquées depuis l'enfance à avoir peur dans un certain nombre de circonstances et notamment à nous méfier des hommes. Et elle a réussi à échapper à ce harceleur en se réfugiant dans un commerce. Béa avait 18 ans. Lors d'une soirée étudiante, elle a été agressée, des attouchements au niveau des seins. Notamment, soirée étudiante, pas très loin d'ici. Et puis pour terminer, parce que je ne vais pas vous lire tous les témoignages que j'ai reçus, Pauline avait 13 ans, quand un matin, à l'arrêt de bus pour aller au collège, en hiver à 7h30 du matin, donc il fait nuit, un exhibitionniste s'est planté devant elle et lui a montré son matériel, parce que sinon... il ne serait pas exhibitionniste. Il y avait d'autres personnes qui étaient là et tout le monde a détourné le regard et elle a attendu la fin de la journée pour en parler à ses parents qui, eux, ont saisi la justice. Mais bon, il ne s'est rien passé non plus derrière. Voilà, ça c'était une illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la scolarité. Puisque tu parlais je veux pas retenir son nom, je ne veux pas, cette femme évangéliste américaine. Ça me fait penser évidemment, parce que là on parlait de thérapie de conversion, ce qui est bien sûr, donc ce mouvement de gens qui a toujours existé, et en particulier dans l'Amérique puritaine, mais qui revient chez nous, donc contre
tout ce qui peut s'approcher de loin ou de près des LGBT, QIA+, de la notion de genre, évidemment du féminisme, et donc je pense aux trad wives, forcément. C'est un mouvement en parallèle de la montée des mouvements masculinistes dans le monde, en Europe, aux États-Unis ça va de soi, en Europe, et je pense au Royaume-Uni par exemple, et en France. Et en France, ces gens-là sont évidemment portés par les médias, par les réseaux sociaux, pardon. Et je voudrais vous lire une phrase de Bérangère Couillard, qui est là, elle a dit ça en janvier 2025, à l'occasion de la sortie du rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité. C'est elle qui est présidente, et elle a dit, je cite, « Les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculistes, surtout les jeunes. » Et il a été établi qu'il y avait un parallèle, plus les femmes revendiquent leurs droits, donc plus elles sont féministes, moins elles veulent se laisser faire, plus, en face, il y a un mouvement réactionnaire qui monte, notamment chez les jeunes, et ce mouvement, c'est les masculinistes. Et ils sont accompagnés de ces mouvements de trad wives, comme on dit, etc. Donc il y a des femmes aussi avec eux qui aiment que leur homme soit viril, leur marche dessus, leur marche sur la gueule du matin jusqu'au soir. Et ça, c'est... Enfin, je ne sais pas où on va, parce que plus les femmes ont conscience, plus les femmes se battent, plus elles ont conscience des inégalités, et plus en face, il y a des groupuscules qui viennent et qui sont violents. Alors, qui sont violents verbalement. Quand on voit les vidéos là, de ces mecs, là, c'est tous, enfin pas tous, mais souvent, c'est des mecs très musclés, qui se baladent torse nu, qui sont très agressifs dans leur façon de parler. Enfin, ce sont des caricatures de ce qu'ils voudraient renvoyer comme image de l'homme un peu néandertal, en fait. Non, parce qu'en plus, il doit être beau. Donc, ça vous fait penser à quelqu'un quand je dis ça? Les muscles, les montrer, avec un petit vêtement moulant, être jeune, arriver des États-Unis et être dans la presse depuis quelque temps? Ça vous fait pas penser à... Je crois bien que son père est en prison.
Ah oui, celui qui mange des mangues.
Bon, on avait déjà parlé de lui, nous.
C'est... Non, on a ri de lui.
On a ri de lui. Le père ou le fils ou les deux
Les deux.
Hein, donc, bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, le fils s'appelle Louis.
Je pense qu'on a compris. Voilà.
Et ça, c'est... Enfin, je trouve que, même sans l'avoir écouté, rien qu'à le regarder, à regarder les photos, comment il pose, déjà, on sent le mascu à plein nez, quoi. C'est dingue. Ça. Et puis évidemment, les propos vont avec, mais c'est impressionnant. Et il est candidat aux élections municipales de... j'ai oublié la ville. Non, c'est pas les municipales.
Je sais pas.
Si, je crois.
C'est
à cette occasion qu'il a été...
Il parle beaucoup, alors du coup...
je n'écoute pas.
Mais en fait, bon, en même temps, c'est pas étonnant, parce que quand il était petit, il a grandi dans une belle maison quand même.
C'est pas parce qu'on grandit dans une belle maison. Enfin, j'espère.
Non, mais il a grandi à l'Élysée.
Ah oui, excuse-moi, j'avais pas.
Il était tout petit à l'époque quand son.
Oui, quel âge il a ce mec une trentaine
d'années.
Il
a l'âge d'être mon petit frère. Je rigole.
Alors, il est candidat. Il est candidat à la mairie de Menton. Voilà. Donc, c'est dans le sud. Voilà. Donc c'est. Bon, puis en vérifiant l'info, évidemment, j'ai tapé son nom et du coup, j'ai sous les yeux, ça pique. J'ai plein de photos de lui avec sa chemise blanche bien tendue. Là, on sent que les boutons vont casser
main,
tellement il a...
T'as pas de pitié pour ton historique internet.
Ouais. Oh, quelle horreur. Eh bien, peut-être un petit peu de musique avant de continuer parce que je peux plus. J'ai chaud.
Oui,
mais c'est pas Louis Sarkozy qui me donne chaud.
Écoute, je vais mettre Tina Turner.
Ah ben voilà.
Donc,
merci Alex.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice,
one minute
and
sleep.
Rough.
And
but we're gonna take the beginning of this song.
The thing
and do it
been
easy.
Big wheel,
But then we're gonna do the finish. Rough.
Proud Mary.
That's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep.
And I was worrying about the way that things might have been. You know that
big wheel keep on turning.
Merci Alex pour ce morceau dont on ne se lasse jamais et dont on ne se lassera jamais. Et comme tu nous le disais en antenne, c'est le morceau probablement que tu as...
Que je mets le...
Le plus souvent.
Voilà, quand j'étais le plus quand présent peux, dans nos émissions. Bah écoute, on a qu'à le mettre à chaque fois. Hein. Avant de donner la parole à Annie pour sa seconde chronique, je voudrais vous faire part d'un témoignage que j'ai reçu, un témoignage poignant. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres, on ne peut pas tous les dire à l'antenne parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'émission pourrait durer plusieurs heures. C'est l'histoire de Céline, je rappelle que ça n'est pas son vrai prénom. Elle a 28 ans quand elle rencontre X. Je ne veux pas lui donner un prénom même d'emprunt. C'est un coup de foudre. L'amour fou. La lune de miel, n'aura duré que quelques mois. Les coups pleuvent, pour un oui, pour un non. D'abord entrecoupés de périodes d'accalmie, puis la violence devient quotidienne. Et Céline, elle ne part pas. Du moins, elle part, une heure, deux heures, elle revient. Elle reçoit un coup de fil, il demande pardon. Enfin, on voit tout ça à la télé, on lit ça dans tous les témoignages, dans la presse. C'est systématiquement le même schéma. Il l'isole de sa famille. Elle ne peut plus voir sa famille, elle ne peut plus voir ses amis. Il lui confisque son téléphone portable. Elle est toujours là parce qu'elle est sous emprise. Elle culpabilise, c'est elle. Elle mérite les coups qui tombent, parce que c'est ce qu'il lui dit, et elle le croit. Et puis parce qu'elle a perdu toute force, en fait. Il l'a totalement anéantie psychologiquement. Et encore une fois, ça, on peut le lire partout. Et puis, un heureux événement se profile à l'horizon, et pendant la grossesse, les coups cessent. Donc finalement, elle reprend espoir. Elle y croit. Et quand l'enfant naît, eh bien, les coups ne reprennent pas. On va dire, en tout cas, pas tout de suite. À quel moment exactement ils ont repris ? Quelques mois après la naissance, le souvenir est assez flou dans la tête de Céline. L'enfant n'aura jamais été battu, ou en tout cas, ne sera pas resté auprès de son père ou à proximité de son père suffisamment longtemps pour le savoir. Mais par contre, les violences psychologiques, les traces psychologiques sur l'enfant sont importantes. Il a été témoin, comme je le disais tout à l'heure, des violences infligées à sa mère, violences donc physiques et psychologiques. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées et puis finalement, X a été condamné. Alors d'abord avec de la prison avec sursis, il avait d'autres choses dans son dossier. C'est un moment, ça n'a rien changé en fait dans son comportement. Ensuite, il a eu une nouvelle condamnation. Alors, je vous dis ça, il se passe beaucoup de temps en fait. C'est pas dans les 6 mois. Hein. Et là, il prend de la prison ferme. Céline prend son bébé, son tout petit enfant, sous le bras. Elle met toutes ses affaires dans sa voiture. Elle démarre et elle part. Elle roule. Elle s'enfuit. Elle quitte la France, où elle est toujours aujourd'hui. Parce qu'elle a emmené son enfant et le père a toujours ses droits. Il n'a pas été privé de ses droits parentaux. Il l'a été pendant qu'il était en prison. Et puis, il les a recouvrés à la suite. Donc, elle vit cachée. Voilà. C'est un témoignage que j'ai trouvé très fort parce que dans la voix de cette personne, encore aujourd'hui, on entend la tension, on entend l'angoisse, on entend encore la peur. Et c'est effrayant. Voilà. Eh bien, suite à ce témoignage, Annie ne va pas vous remonter le moral avec sa chronique, sa deuxième chronique.
Non, ça aurait pu.
Ça aurait pu.
Parce que j'ai cru que j'avais trouvé Tanaland. Et c'était pas le village de Tiny House à côté de Dallas. C'était pas ça, non. Alors Tanaland, vous savez, c'est ce pays imaginaire où il n'y aurait aucun homme, où les femmes pourraient vivre libres, heureuses et épanouies sans avoir de compte à rendre. Je suis tombée sur un article qui annonçait fébrilement une pénurie d'hommes en Lettonie.
Yes!
Compte tenu de l'aspect caricatural de l'article, qui mentionnait l'existence d'un métier letton spécifique intitulé « Marie d'honneur », destiné à effectuer des tâches parfaitement exécutables par n'importe quel être humain doté de mains, en fait, mais assigné aux hommes dans les cultures patriarcales, j'ai fait quelques rapides recherches. Bon, bah c'est pas Tanaland, hein.
Les données officielles que j'ai pu trouver, c'est que l'on compte 116 femmes contre, j'avais pas envie de dire pour, contre donc 100 hommes en Lettonie. À titre d'information, en France, on compte 105 hommes contre 100 femmes. Voilà. Donc, il ne me semble pas qu'il y ait la place pour le mot pénurie, qui paraît quand même disproportionné. Ce qui m'a marqué au cours de mes recherches, c'est le caractère douteux des sites ayant relayé l'information, bizarrement très orienté à droite, voire pire, et n'hésitant pas à promouvoir sans complexe le stéréotype de la femme de l'Est. Dans notre monde gangréné par le masculinisme, où les journalistes deviennent progressivement les commerciaux du capitalisme patriarcal, j'ai surtout identifié dans cette triste blague les relents du male gaze et la promotion des tradwives. Pourtant, la perspective d'un monde où les hommes ne prendraient pas toute la place, ça me tentait bien. D'autant plus lorsque l'on voit ce que la virilité exacerbée est capable d'infliger au corps des femmes. Triste réalité déjà connue depuis des lustres, mais qui ne semble pas atteindre nos sphères dirigeantes, les crimes de guerre anéantissent les femmes principalement. Récemment, un rapport de deux ONG, Physicians for Human Rights et Organization for Justice and Accountability in the Horn of Africa, ont rendu un rapport terrifiant sur la situation au Tigré. Cette région d'Éthiopie, limitrophe de l'Érythrée et du Soudan, est en proie aux exactions des armées éthiopiennes et érythréennes, à l'encontre des femmes et des enfants tigréens. Dans le contexte de guerre ethnique, c'est une campagne de terreur sexuelle systématique qui est conduite. Attention, trigger warning VSS. Elle implique des viols collectifs, des tortures infligées au niveau des organes génitaux, de l'esclavage sexuel, des grossesses forcées et toutes les cruautés que les soldats s'acharnent à mettre méticuleusement au point pour détruire les corps et la dignité des femmes, afin d'anéantir un peuple cible. Peut-être que si nos dirigeants ne perdaient pas autant de temps avec leur racisme et leurs préoccupations matérielles dérisoires, ils se souviendraient qu'ils peuvent agir et remplir leur rôle, notamment au sein des Nations Unies, afin de venir en aide à ces populations décimées dans la plus totale indifférence. Parce que le Tigré, c'est pas la seule région qui subit ce genre de problèmes. Il y a le Soudan aussi. Il y a des problèmes dans plein d'autres pays africains. Mais la plupart du temps, ces peuples doivent organiser leur propre résistance, malgré le peu de moyens dont ils disposent. En Équateur, les communautés s'opposent à l'extractivisme pétrolier, et parfois, cela porte ses fruits. Dans les années 2000, la communauté Kichwa de Sarayuku, non, je me suis trompée, de Sarayaku, avait remporté une bataille contre la CGC, empêchant un projet d'exploitation. Par la suite, les communautés ont poursuivi la lutte contre un système délétère introduisant pollution et violence sur leur territoire. Le féminisme tient sa place parmi ces résistances. Par exemple, à l'initiative de la Fédération de nationalité Shuar de Pastaza, des ateliers sont organisés à destination des femmes des différentes communautés afin de leur offrir un espace d'expression sécurisé et un moyen de s'émanciper des schémas patriarcaux qui les emprisonnent souvent dans leur propre maison. Ces ateliers, à travers des activités manuelles renforçant le lien avec la terre et entre femmes, visent à leur donner les moyens d'assurer leur indépendance et pourquoi pas de devenir leaders sur leur territoire. Catalina Chumbi fut la première femme présidente de la fédération et a notamment porté la voix des peuples d'Amazonie lors de la COP28. Pour terminer, je voudrais vous parler d'une autre présidente qui sera investie le 11 novembre prochain. Il s'agit de Catherine Connolly. Cette psychologue devenue avocate, qui nous vient de la magnifique ville de Galway, va devenir la nouvelle présidente d'Irlande. Et si je vous en parle, c'est pour deux raisons. D'abord, elle me donne un peu d'espoir. Elle a dénoncé le génocide à Gaza depuis le début, elle est antimilitariste, elle prône la diversité et l'inclusivité, et elle est décidée à remettre en cause la croissance en réponse à la menace existentielle que représente le changement climatique. Alors certes, en Irlande, le poste de présidente ou président est essentiellement honorifique. Mais elle sera chargée de faire respecter la Constitution et elle incarnera tout de même la nation irlandaise au-delà de la politique quotidienne. Elle peut donc jouer un rôle non négligeable sur le plan international. Enfin, la deuxième raison, c'est parce qu'elle peut peut-être nous inspirer. En effet, pour la première fois, ce sont tous les partis de gauche qui se sont alliés derrière elle. lors de cette élection où elle a remporté 63,4% des voix. Comme quoi, l'union, ça peut marcher. Mais je dis ça comme ça.
Merci Annie. Et puis, même si le pouvoir, effectivement, c'est pas la même chose qu'un président en France ou qu'un premier ministre, évidemment, c'est plutôt honorifique, comme tu l'as dit. En termes de message, dans le monde, c'est quand même très important à une époque où c'est très difficile. Et je voudrais rebondir, puisque tu as parlé de la Lettonie. Alors, la Lettonie, il y a quelques jours, le 30 octobre, a voté le fait de quitter la Convention d'Istanbul. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la Convention d'Istanbul, c'est la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Et elle a été signée à Istanbul, d'où le fait qu'on en parle en disant la Convention d'Istanbul. Donc, c'est un traité international qui fait que les États signataires doivent s'entendre pour lutter contre toutes les formes de violence envers les femmes et prendre les mesures législatives de protection, y compris contre la violence conjugale et familiale. Cette convention du Conseil de l'Europe existe depuis 2011. La France l'a rejoint, a signé à son tour en 2014. La Lettonie l'a rejoint l'année dernière, en 2024. Et en 2025, ils signent qu'ils s'en vont. Soit dit au passage, ça s'appelle la Convention d'Istanbul, mais la Turquie a retiré, est partie en 2021. Hein, c'est retiré de la Convention en 2021. Donc la Lettonie, c'est un truc de fou, là, ce qui se passe. Et il y a énormément de manifestations. Là, les gens sont dans les rues, les femmes, mais pas que. Donc ça, il y a une grogne importante. Alors en même temps, ce vote correspond à une droitisation du pays, ça c'est très clair. Hein. Mais il y a beaucoup de manifestations. Donc j'ai lu aujourd'hui que le président, au nom imprononçable, vous me pardonnerez, est en train de faire marche arrière. Il est en train, pour pouvoir rester dans la Convention d'Istanbul, alors qu'il y a eu un vote, hein, c'est compliqué, il est en train de dire qu'il y aurait quelque chose qui serait sur le plan de la constitution, ça serait anticonstitutionnel qu'un même gouvernement sur un même mandat ou sur une même année, parce que 2024-2025, avec si peu de temps entre les deux, puisse signer, puis se retirer. Et voilà. Et donc, ce serait la raison, c'est la raison qu'il est en train d'invoquer en ce moment pour, semble-t-il, faire marche arrière par rapport à ce vote. En tout cas, c'est assez fou, quoi. On signe en 2024, en 2025, on veut s'en aller. C'est un très, très mauvais signal.
Oui.
C'est une catastrophe.
Oui, de revenir sur les décisions ou les lois qui ont été votées, qu'on retire à la guise.
Et ce qui motive, a priori, ceux qui veulent quitter donc, la Convention d'Istanbul en Lettonie, a priori, ce sont les questions de genre. Oui. Qui leur pose problème et ils parlent d'ingérence d'ingérence des pays étrangers dans la culture ou lettonne ou quelque chose comme ça et c'est ça qui justifierait enfin toutes ces questions de genre là ça les perturbe les pauvres les petits ouin ouin là. Les gens on s'en va à la Convention d'Istanbul. Voilà, c'est tout. Sur ces bonnes paroles, je propose une petite pause musicale et ensuite nous parlerons de ce qui va se passer le 29 novembre à La Roche dans le cadre des manifestations autour de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes le 25 novembre. Et c'est Marion de Nous Toutes que nous allons accueillir après la pause musicale.
Ok.
Not a call. Thank you, leave me alone. My ass is not a cake. My body's not a game. It's fine, it's not a call.
My ass is not a cake. don't touch me. Respect me, don't touch me. Respect me, don't touch me. Respect me.
Merci. Est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus, Alex, hein, sur ce morceau sympa que tu nous as fait écouter?
Tu veux que je te traduise le premier couplet qui aussi est identique au deuxième couplet et au troisième couplet?
Bah écoute, si tu veux. Hein, Alors, c'est un morceau de...
The Tracks et c'est Tiny Brain.
Bon, bah, ça c'est chouette. Et oui. On l'avait déjà passé, non?
Oui.
Oui, hein.
Oui, oui.
Parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Mmh. Tu nous fais toujours découvrir des trucs super. Alors bien sûr, vous aurez remarqué avant la pause musicale que quand j'ai parlé de la journée internationale, enfin quand j'ai parlé du 25 novembre, il s'agit bien sûr de la journée internationale de lutte contre les violences, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et non pas du tout de lutte pour les droits des femmes, et ça c'est le 8 mars. Et je suis fatiguée, je suis désolée. Et entre-temps, Marion est arrivée. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Donc Marion, tu vas nous parler de ce qui va se passer donc à La Roche, comme je disais tout à l'heure. Et puis aussi nous faire les lectures féministes de nous toutes, comme on les retrouve chaque mois, dans l'ordre que tu souhaites. Vas-y.
D'accord. Alors, donc cette année, on organise, nous toutes, 85 organise la marche de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ça sera le 29 novembre. Le rendez-vous est donné à 15h, place Napoléon, donc à La Roche-sur-Yon. Le parcours est un parcours assez court pour permettre l'inclusion de tout le monde. Il sera ponctué de plusieurs arrêts, notamment devant le tribunal, avec voilà, des animations sur le trajet. Et en amont de la marche, on aura le traditionnel discours de revendication et aussi le fémage. Donc le fémage, c'est la contraction des mots femme et hommage. Donc c'est un moment où on rend hommage aux femmes victimes de féminicide sur l'année écoulée. Donc voilà, un moment assez émouvant. Et ensuite on commence la marche et à ce moment-là on met de la musique, on crie des slogans. Et le but c'est que ce soit assez festif et revendicatif dans les rues pour interpeller les gens qui seront ou à leurs fenêtres ou dans les magasins. Voilà.
Oui, donc le but, c'est, même s'il y a le fémage, les noms des victimes de féminicide, enfin, c'est pas un cortège noir, Enfin bon, il sera violet en l'occurrence, mais je veux dire, voilà, c'est festif comme tu l'as dit. Il va y avoir des chants, des slogans, peut-être drôles, je ne sais pas.
Oui, c'est ça. On est en préparation du coup de différents slogans, des musiques féministes forcément. Pour le moment du fémage est un moment assez émouvant, mais ensuite, voilà, le but de la marche, c'est pas que ce soit trop compliqué à gérer. On sait qu'on est sur un public qui n'est pas forcément averti et on veut pas non plus que ce soit compliqué, que ça puisse réveiller des traumas chez les personnes. Donc voilà, le but de la marche, c'est que ce soit festif et revendicatif.
Et donc, cette manifestation, elle est faite avec... Il y a d'autres associations, il y a le planning, je crois.
Oui, c'est ça. Donc, dans les partenaires, on a
le CIDF, peut-être.
Le Centre LGBTQI+, oui. Le CIDFF, le planning familial 85 et Solidarité Femmes,
okay.
85 aussi. Voilà, donc ils vont rejoindre le cortège et dont on va, je pense, pendant le discours aussi, évoquer leurs chiffres pour parler de ces associations-là qui œuvrent pour cette lutte commune.
Et vous attendez combien de personnes? Enfin, est-ce qu'il y a des chiffres qui sont évoqués?
Alors, je crois que l'année dernière, on était sur 300 personnes, mais on avait décalé et l'horaire et le lieu de départ. Les années précédentes, on était plus sur 400 personnes. Alors, plus il y a de monde, plus on peut faire du bruit, plus ça
Bien
peut
sûr.
Être, plus ça peut être visible.
Bien sûr.
Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Le parcours est entièrement PMR. Et du coup, on reste sur le centre-ville de La Roche cette année pour avoir un parcours un peu plus court et voilà, permettre à tout le monde de pouvoir y participer.
Et alors, où est-ce qu'on retrouve toutes les informations? Sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur où est-ce qu'on trouve le lieu de rendez-vous, tout ça?
On a le Facebook et l'Instagram de Nous Toutes 85, sur lequel on retrouve toutes les informations. Et on a aussi un petit site internet qui va être accessible. En fait, sur les flyers, il y aura un QR code. Sur ce QR code, on pourra accéder du coup à l'événement Facebook pour indiquer qu'on participe à la marche si on le souhaite. Et on aura aussi la liste des partenaires. Voilà.
Ah, c'est bien ça. Il y avait ce système de QR code les années précédentes?
L'année dernière, je crois que oui, mais je ne suis plus sûre. Ouais. Ça a été un peu compliqué à mettre en place. Donc,
d'accord. Et donc, c'est sur ces flyers, on va les trouver où, ces flyers? Où on les trouve où?
Donc là, les flyers, on est en train de commencer justement la distribution. Donc, on va les retrouver dans les commerces alors du centre-ville principalement. Il y aura aussi une petite partie sur le Boursault La Roche. Et puis après, en fonction en fait, des membres qui pourront distribuer, il y en aura sûrement sur Aubigny, sur, voilà, dans les commerces un peu de proximité. Et puis bah, sur notre site internet, on retrouve toutes les informations sur nos réseaux sociaux, du moins,
d'accord,
pour y participer.
Alors nous aussi, hein, sur l'Insta et la page Facebook de l'émission, on relaie aussi ces informations. Vous pouvez retrouver des liens vers les associations partenaires. Je me permets d'insister auprès de nos auditeurs et de nos auditrices sur l'importance de la présence dans les rues ou dans toutes les manifestations qui peuvent être organisées ici à La Roche, ailleurs en Vendée, partout en France et partout dans le monde, pour sensibiliser, pour dénoncer, pour que les violences ne soient pas balancées sous le tapis. Enfin, voilà, pour qu'on en parle, parce qu'en parler, c'est faire avancer les choses. C'est très important. Tout le monde est concerné par les violences faites aux femmes et aux filles. Tout le monde est concerné, même les hommes, évidemment. Ce sont vos mères, vos sœurs, vos filles. Et puis, même si vous n'étiez pas concerné directement, enfin, il y a un truc qui s'appelle l'être humain, la fraternité, l'humanité, qui fait que... Donc c'est vraiment très très important. Et vous avez le droit de venir même si vous n'êtes pas en violet. Ça n'est pas du tout obligatoire, mais si vous avez des trucs violets chez vous, n'hésitez pas à venir avec. Alors merci Marion, tu as prévu de nous lire un livre que les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais la couverture est violette. Alors, vas-y, on t'écoute.
Donc, c'est un livre qui s'appelle « Une révolution intérieure, renforcer l'estime de soi » de Gloria Steinem. Et c'est du coup une adaptation de son livre, qui est paru aux États-Unis. Donc, une adaptation par Juliette Bourdin. Les médias présentaient à tort les féministes comme des blanches frivoles de la classe moyenne. Caricature que déjà à l'époque, je savais être fausse. Les premières féministes dont j'avais entendu parler dans les années 60 étaient des ouvrières qui avaient fait tomber les barrières entre hommes et femmes aux chaînes de montage des usines. Et les premières que j'avais rencontrées en personne étaient des noires qui vivaient de l'aide sociale et comparaient ce système dévalorisant à un gigantesque mari qui concéderait des allocations à peine suffisantes à condition de lui être fidèle. La règle qui imposait qu'il n'y ait pas d'homme à la maison. Si on laissait ces groupes-là dans l'ombre et qu'on ne parlait que des femmes aisées qui déjeunaient au Plaza, je craignais que l'image de ce nouveau mouvement n'en soit encore plus déformée. Il se trouve que j'avais vu juste au sujet des tactiques et de l'image du féminisme que les médias continuaient de véhiculer. Blanche, de la classe moyenne, semblait avoir sa propre touche sur le clavier de nombreux journalistes, même si les sondages montraient que les femmes noires étaient presque deux fois plus nombreuses que les femmes blanches à soutenir les revendications féministes. Mais je me trompais largement sur les réactions des femmes, y compris la mienne. Par exemple, j'avais déjà défilé pour les droits civiques, contre l'engagement des États-Unis au Vietnam, et aux côtés des travailleurs saisonniers, souvent dans des manifestations loin d'être parfaites tactiquement parlant. Alors pourquoi demandais-je soudain la perfection de la part des femmes ? Lorsque les Noirs ou les Juifs avaient été exclus des restaurants ou des bars, qu'ils soient chers ou non, manifester ne m'avait pas posé de problème. Alors pourquoi ne pouvais-je pas considérer tout aussi sérieusement la moitié de la race humaine à laquelle j'appartenais moi-même, et qui d'ailleurs comprenait la moitié de tous les Noirs et de tous les Juifs ? Le fait est que j'avais intériorisé l'absence de sérieux de la société vis-à-vis de tout ce qui était féminin. Moi y compris. Ce n'était pas une question de logique, mais de manque d'estime de soi. Une femme noire devait-elle manifester pour le droit de manger dans les snack-bars bon marché du Sud, dont on lui interdisait l'accès à cause de sa couleur de peau, pour ensuite tolérer qu'on refuse de la servir dans un restaurant onéreux de New York en raison de son sexe ? Évidemment non. Le principe, et plus important encore, le résultat concret pour une femme, était le même. Mais on m'avait appris à considérer les jugements fondés uniquement sur le genre comme moins importants que ceux qui étaient fondés uniquement sur la race, sur la classe sociale ou sur tout autre facteur. En fait, en faisant la somme de tous les groupes qui existent dans le monde, en dehors des femmes blanches, j'accordais plus de valeur à n'importe quel autre individu qu'à moi-même.
Merci Marion. Je ne connaissais pas cette autrice. Tu l'as découvert. Ça date de quand ça ? C'est récent ou
Alors je ne sais. Les années 90.
Oui,
95,
c'est pas quelque chose de récent. Comme ça, hein.
Oui, non, je pense que c'est pas quelque chose de récent. Ouais.
Et tu l'as découvert toi récemment, par contre ?
Oui. Mais en fait, en me promenant dans une librairie, j'aime bien aller du côté féministe.
Ouais.
Et il y a peu de livres. Et en fait, celui-ci m'a un peu sauté aux yeux avec la couverture violette et le symbole du féminisme dessus. Et j'ai vu que ça parlait d'estime de soi. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport finalement, puisqu'on nous apprend depuis petite à ne croire qu'aux autres. Les adultes, quand on est enfant, ont le savoir. Les hommes ont la force. Et voilà, nous, en tant que femmes, on est un peu des petites choses caricaturées, capables de rien. Donc voilà.
Bah merci pour cette découverte. Tu connaissais Annie, Alex ? Alex, tu connaissais
après ? Oui, je l'ai le livre.
Ok, d'accord. Bah, tu nous en as jamais parlé. Merci, bravo. Quoi. Il aura fallu Marion. Hein,
tu partages pas tes plans.
Franchement. Eh bien, pour rappel, la prochaine émission sera le premier mercredi de décembre et ainsi de suite. Oui, en 2026, on est toujours là. Hein. On est d'accord, hein ? On est toujours là, premier mercredi de chaque mois. Donc de 19h à 20h30, vous nous retrouvez donc page Facebook Histoire de Femmes, de le chiffre 2, même chose pour le compte Instagram. Si vous voulez témoigner, quelle que soit la raison, enfin quel que soit le témoignage, c'est pas nécessairement des violences, c'est le sujet aujourd'hui, mais c'est pas du tout nécessairement des violences. Vous voulez venir raconter un parcours professionnel auquel vous tenez, quelque chose, un défi que vous avez relevé, un sport dans lequel vous excellez, ou bien tout simplement qui vous fait du bien. Vous voulez raconter l'histoire d'une femme de votre famille. Ça a pas besoin d'être, c'est des héroïnes de la vie ordinaire, et vous êtes des héroïnes de la vie ordinaire. Venez, contactez-nous sur les réseaux et soyez nos invités. Et c'est la même chose pour ces messieurs. Vous êtes artiste, vous parlez des femmes, vous voulez là aussi nous parler de quelqu'un de votre famille, vous êtes les bienvenus aussi, messieurs. Retrouvez dès demain le podcast de cette émission et des émissions précédentes sur Spotify, sur Apple Podcasts et aussi sur le site de la radio www.graffitiradio.fr, et tout le monde dans la rue le samedi 29 novembre, place Napoléon, rendez-vous à 15h. C'est bien ça ?
C'est ça.
Merci Marion. Merci Annie, merci Alex.
Bonsoir.
Merci.
Et au mois prochain.
Au mois prochain.
Au revoir.